RFI, grand reportage.
Sébastien Duhamel.
Entre 2006 et 2013, 64 000 Africains sont entrés illégalement en Israël, essentiellement des Érythréens et des Soudanais arrivés par l'Égypte. Depuis, le gouvernement israélien a fait construire une barrière le long de la frontière. Les arrivées se sont interrompues et plus de 20 000 migrants africains ont quitté volontairement le pays. Mais selon le ministère israélien de l'Intérieur, près de 40 000 personnes sont toujours présentes et le gouvernement veut les expulser. En décembre dernier, il a présenté un plan qui prévoit un départ vers des pays tiers ou un emprisonnement pour une durée indéterminée. Depuis 4 mois, ce plan d'expulsion massif a été combattu par les organisations de défense des droits de l'homme, estimant que ces migrants sont des demandeurs d'asile. Après des mois de bataille, l'exécutif a finalement reconnu ce mardi qu'il n'a pas d'accord avec des pays tiers, mais il réitère son intention de faire quitter le pays à ceux qu'il appelle des infiltrés. Mais en attendant, ces près de 40 000 Africains vivent toujours dans une situation précaire. Israël, le difficile parcours des demandeurs d'asile africains. Un grand reportage, signé Guilhem Deltey.
Dans sa chambre, Sami Samiri écoute de la musique sur son téléphone portable. Le mobilier est assez sommaire, un lit, un bureau, une armoire, et la décoration est épurée, mais une œuvre accrochée au mur a pour lui une forte valeur sentimentale. Ce jeune Érythréen a fait un dessin de sa maison familiale, une demeure assez grande entourée d'un jardin verdoyant, une maison qu'il n'a pas revue depuis 9 ans. Sami Samiri a quitté son pays natal à l'âge de 16 ans. Il ressentait déjà l'oppression politique.
Quand j'étais petit, toute ma vie était rythmée par la dictature, la politique, le gouvernement. À l'école, les soldats rentraient dans les classes, menaçaient les élèves. Là-bas, il n'y a pas de droit. Ils peuvent rentrer quand ils veulent, frapper les femmes. Maman était frappée et menacée, c'est comme ça. Ils n'ont de compte à rendre à personne, ils font ce qu'ils veulent. C'est pour ça que je ne pouvais plus rester.
Sami Samiri a mis un an à parcourir la distance entre l'Érythrée et Israël. Un trajet au cours duquel il a été, comme beaucoup, détenu par des bédouins dans le désert, dans l'attente de pouvoir régler ses frais de passage. C'est par l'Égypte, la péninsule du Sinaï, qu'il est entré sur le territoire israélien.
Quand on est arrivé, les soldats nous ont accueillis. Ils nous ont donné de l'eau et de la nourriture. Ils nous ont emmenés dans un camp de réfugiés à Saharonim. Avant, c'était une prison, mais quand on est arrivé, c'était déjà un camp de réfugiés. J'ai passé un mois là-bas. On m'a posé des tas de questions. Pourquoi tu as fui ton pays? Comment es-tu arrivé ici? On m'a fait signer un papier disant que je ne suis pas venu en tant que réfugié, mais pour chercher du travail. On m'a obligé à signer ce papier.
À sa sortie du camp de Saharonim, situé à quelques kilomètres de la frontière égyptienne, Sami Samiri a été emmené à Tel Aviv. Sur place, il n'y avait aucune structure d'accueil pour lui et il a décidé de rejoindre un ami érythréen vivant à Jérusalem. C'est dans cette ville qu'il s'est petit à petit installé.
J'ai appris l'hébreu au travail. Je n'avais pas le choix. J'étais obligé d'apprendre l'hébreu pour continuer à travailler et vivre ici. Je me suis battu pour vivre et sortir de la dépression dans laquelle j'étais. J'ai travaillé jour et nuit pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. J'ai d'abord trouvé un emploi de maçon pendant à peu près 9 mois. C'était très difficile. Puis j'ai commencé à faire la plonge dans un restaurant, à préparer les légumes pour la cuisine. C'est là que j'ai appris l'hébreu.
Aujourd'hui, Sami Samiri se dit intégré. Il parle couramment la langue, a des amis israéliens et célèbre même de temps en temps Shabbat avec eux. Mais son statut en Israël reste précaire. Son visa doit être renouvelé tous les 2 mois. Il n'existe qu'un seul centre dans tout le pays où les migrants africains peuvent faire leur demande de papier. Ce bâtiment se trouve aujourd'hui dans une zone commerciale de la banlieue de Tel Aviv et tous les jours, des centaines de personnes s'y pressent.
Je viens tous les 2 mois renouveler mon visa. Je suis arrivé à 3 heures du matin pour être parmi les premiers. Je suis déjà venu hier, mais je ne suis pas encore passé. Certains sont arrivés dimanche et ils ne sont toujours pas passés.
Face à ces files d'attente interminables, les migrants africains ont décidé de s'organiser. Assise par terre, Lola tient un cahier entre les mains. Atteinte d'un cancer, cette érythréenne arrivée en Israël il y a 7 ans ne peut pas travailler et elle gagne un peu d'argent en enregistrant les personnes venues renouveler leur titre de séjour.
C'est la famille 110 qui passe par là. Pour les célibataires, 102 personnes sont inscrites, mais ils n'en ont pas fait rentrer beaucoup. En moyenne, il y a 6 jours d'attente. Chaque jour, entre 5 et 10 célibataires peuvent entrer. Ils privilégient les familles. Ils en admettent à peu près 50 par jour.
Les célibataires doivent revenir tous les deux mois. Les familles, elles, ont des titres de séjour de 4 mois. Sur les près de 64 000 Africains arrivés illégalement en Israël, seule une minorité a fait une demande d'asile. Ils sont 15 000 à avoir déposé un dossier depuis 2013. Par manque d'informations, estime avant tout ce jeune érythréen arrivé à l'âge de 16 ans.
Je viens faire ma demande d'asile. Je ne l'ai pas faite avant parce que j'étais jeune. Je ne comprenais pas toutes ces démarches et personne ne m'a aidé. Quand je suis arrivé en Israël, on m'a dit qu'on m'a accompagnerai. Je faisais confiance, mais ce n'était que des promesses orales.
Le manque d'informations est un grief fait aux autorités aussi par un certain nombre d'Israéliens. Ils sont une centaine à se relayer tous les jours devant le centre des services de l'immigration pour aider ces immigrants dans leur démarche. Anna Traïsman-Lévy est une habitante de Tel Aviv.
La plupart n'ont pas la moindre idée de leurs droits, de la situation juridique actuelle. Et les choses évoluent, donc on leur donne des feuilles avec des informations, ainsi que les adresses et numéros de téléphone d'organisations de défense des droits de l'homme qui peuvent les aider si besoin. Et de temps en temps, ils nous demandent de relire les demandes qu'ils ont faites. On les regarde et on tâche de leur donner des conseils. Parfois, ce sont juste de petites corrections, une signature manquante. Et parfois, on leur conseille de tout réécrire pour améliorer leurs chances, même si personne ne sait exactement ce qui va se passer maintenant.
L'incertitude est nourrie par la volonté affichée du gouvernement d'expulser Érythréens et Soudanais. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou les qualifie d'infiltrés, de migrants économiques. Le statut de réfugié n'a été accordé qu'à 11 personnes. Cela fait un taux d'acceptation inférieur à 0,2%. Depuis le début de l'année, ces projets gouvernementaux ont entraîné de nombreuses mobilisations en Israël. Des manifestations contre le gouvernement israélien, mais aussi contre les pays d'accueil désignés par Benjamin Netanyahou. Moubratou vit en Israël depuis 2010. Il est installé à Ashdod, sur la côte méditerranéenne, avec sa famille. Il a fait une centaine de kilomètres aller-retour pour venir manifester devant l'ambassade du Rwanda, au nord de Tel Aviv.
Avant, ils nous considéraient comme un groupe sous protection, mais maintenant ils nous disent qu'on doit aller au Rwanda. Mais pourquoi? On vient d'Érythrée, pourquoi nous renvoyer vers le Rwanda? On n'a aucun lien culturel, traditionnel. Pour moi, le Rwanda, c'est le génocide, le nettoyage ethnique. Je ne veux pas aller là-bas.
That's in my mind. I don't want to go there.
Début avril, le gouvernement israélien a annoncé que son accord avec le Rwanda était caduque. Il l'avait remplacé par un accord avec le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, prévoyant le départ de 16 250 Érythréens et Soudanais vers d'autres pays et une répartition de ce restant sur l'ensemble du territoire israélien. Mais sous la pression d'une partie de sa majorité, Benjamin Netanyahou a annulé cet accord moins de 24 heures après l'avoir présenté. Le gouvernement affiche toujours sa volonté d'expulser tous ceux qu'il appelle infiltrés et la mobilisation des opposants se poursuit.
C'est un combat plus large pour déterminer le visage de la société israélienne. C'est un test pour voir si la société israélienne prend un chemin raciste, nationaliste, où on ne décide de ne voir que des juifs ici. D'avoir une société 100% juive, sans Africains, c'est une expulsion cruelle et inhumaine d'Africains. On ne peut pas l'accepter.
Mais la cohabitation entre ces communautés africaines et les Israéliens est parfois difficile. Une grande partie de ces migrants habite dans les quartiers sud de Tel Aviv. Cette partie de la ville était déjà paupérisée et l'arrivée de cette nouvelle population, fragilisée, démunie, a créé des tensions. Giora tient un magasin de vêtements près de la gare routière.
C'est une population assez pauvre qui habite dans le sud de Tel Aviv. Il y a toujours eu des problèmes de délinquance et de violence. Mais depuis qu'ils sont là, depuis une dizaine d'années, il y a une augmentation de 150%. Quand je rentre à pied chez moi, ils arrivent parfois en face de moi et je sais que si je ne pars pas, ça va mal se terminer. Plusieurs de mes amis, dont deux très proches, se sont fait dépouiller comme ça. Ils sont arrivés à 5 sur eux et ils leur ont tout pris. Argent, téléphone, l'un d'entre eux ne s'est pas laissé faire, il a fini à l'hôpital.
Soudain, sur le trottoir de l'autre côté de la rue, trois hommes se mettent à se battre.
Tous les jours, c'est comme ça. Ils se battent, ils se donnent des coups, ils se connaissent, ils se volent même entre eux.
L'un des hommes repartait avec le visage en sang. Au fond du magasin, Chéra jette également un œil sur ce qui se passe dehors. Cette vendeuse aussi a constaté une augmentation de l'insécurité.
Plusieurs fois, ils m'ont couru après. Ils ont aussi attaqué ma sœur en bas de la maison. C'est pour ça qu'on a déménagé du quartier.
Quelques rues plus loin, Eli tient un magasin de souvenirs chrétiens. Il est lui-même d'origine étrangère, égyptienne en l'occurrence. Il a été naturalisé israélien. Cela fait 17 ans qu'il vit et travaille dans le sud de Tel Aviv. Et lui aussi dénonce l'effet de l'arrivée des Érythréens et Soudanais sur ces quartiers.
Par exemple, un magasin comme le mien, je le loue désormais 5000 shekels. Avant l'arrivée des réfugiés, ou quel que soit le nom que vous leur donnez, c'était 1000 shekels, 1500 maximum. Quand vous allez à la banque, avant ça, vous prenez 10 ou 15 minutes. Maintenant, il faut attendre environ 2 heures. Et la plupart des clients sont africains. Au centre de santé aussi, vous devez attendre. Longtemps, très longtemps.
Les opposants à la présence des migrants africains se sont regroupés au sein d'un collectif. Chefi Paz est l'une des fondatrices de ce mouvement. Pour elle, c'est l'État, mais aussi et surtout la municipalité et les organisations d'aide aux migrants qui ont voulu regrouper Érythréens et Soudanais dans ces quartiers, une politique qu'elle trouve injuste à l'égard des habitants israéliens.
Pourquoi les ONG ont décidé que c'était le meilleur endroit pour eux? Parce qu'en 2009, une loi a été votée et qu'en substance, elle dit que si on les déplace hors de Tel Aviv, ils vont perdre l'accès aux soins médicaux, aux écoles, tous les services qu'ils ont ici. On prend en compte leurs besoins, mais nous, ils n'en ont rien à foutre.
Le collectif de riverains organise régulièrement des manifestations et petit à petit, il a su se faire entendre du gouvernement. Il a notamment exprimé son opposition à l'accord conclu avec le HCR, finalement annulé quelques heures plus tard par Benjamin Netanyahou. Pour Chefi Paz, tous les migrants doivent quitter Israël.
Nous ne croyons pas à une répartition de ces personnes. Doucement, il y en a qui partent d'eux-mêmes, ailleurs dans le pays. Mais ils vont dans des endroits pauvres. Si on nous promet qu'ils vont être réinstallés dans des quartiers plus huppés, j'y serais favorable. Parce que ce sont ces gens-là qui vont dans les manifestations, qui crient à la honte. Mais ils ne vivent pas avec eux. Sauf que ce ne sera jamais le cas. Donc je suis contre un projet de répartition sur le territoire. De toute façon, ils reviendraient ici. Je ne fais confiance à personne. C'est du bluff. Il faut les expulser.
Assaf est une organisation non gouvernementale qui vient en aide aux réfugiés et demandeurs d'asile. Elle a été créée en 2007, au début de la vague d'arrivée des Érythréens et Soudanais. Ses locaux sont dans les quartiers sud de Tel Aviv. Jérôme Bourdon est l'un des bénévoles de l'organisation.
Alors, la personne que je viens de voir, c'est quelqu'un qui a été victime de torture et de viol dans le Sinaï. On estime qu'il y a 5000 ou 6000 victimes de torture qui ont été rançonnées aussi. Et ceux-là, on les aide d'abord, il faut qu'ils voient des médecins. Quelquefois, ils sont payés, ils sont déclarés, ils ont des bulletins de salaire, donc ils ont droit à la sécurité sociale, mais ils ne le savent pas. Donc on les envoie, on passe un coup de fil éventuellement. Donc voilà, c'est le cas de cet homme-là. On essaie de trouver tout ce qui peut les aider. Celui-là, c'est essentiellement des problèmes à la fois médicaux, mais aussi légaux, puisqu'il faut connaître ses droits, et ça c'est capital. Le peu de droits qu'ils ont, il faut les faire connaître.
Des conseils d'autant plus précieux, juge Jérôme Bourdon, que dit-il, le gouvernement israélien fait tout pour compliquer la vie de ces personnes entrées illégalement dans le pays.
Pour rappeler les mots d'un ex-ministre de l'Intérieur israélien, Eli Isha, notre but est de leur rendre la vie misérable pour qu'ils partent. La politique du gouvernement, c'est de compliquer la vie. Notamment, il y a une loi extrêmement scandaleuse, qui est la loi du dépôt obligatoire à la banque de 20% du salaire. Alors qu'ils reçoivent, quand ils travaillent. Souvent, ils ne réussissent pas à travailler. Ceux qui réussissent à travailler reçoivent un salaire qui est le salaire minimum, souvent semi au noir, une situation très floue sur le plan juridique. Donc, ils travaillent, mais ils ont été obligés de mettre 20% de dépôts qu'ils auraient restitués en principe au départ, sur un salaire qui leur permet à peine de vivre, et notamment d'entretenir une famille, ils ont une famille. Ça, c'est un exemple parmi d'autres.
Jean-Marc Lilling est le directeur du Centre pour la migration internationale et l'intégration, une organisation non gouvernementale qui s'est donnée pour objectif d'aider le pays à faire face aux défis migratoires. Pour cet avocat spécialiste du droit d'asile, le gouvernement israélien a été dépassé par l'ampleur des arrivées.
On est passé d'une politique où le gouvernement n'avait aucune idée comment faire face à cette arrivée massive d'Africains en Israël, à, on va dire, un système réactif qui disait comment on arrête au moins le flux de ces arrivées. Et ces dernières années, on peut même parler d'une politique réactionnaire. Le gouvernement a essayé de mettre en place des mesures qui viseraient en fait à réduire le nombre de ceux qui étaient arrivés en Israël et qui éventuellement auraient dû avoir accès à une procédure d'asile en bonne et due forme.
Pour Jean-Marc Lilling, cette politique gouvernementale va à l'encontre des obligations du pays. Israël est signataire de la Convention sur le statut des réfugiés. Pendant 4 ans, Holot fut le symbole d'une politique migratoire qui se cherche un cap. Ce centre de détention semi-ouvert était situé dans le désert du Negev, dans le sud du pays. Il a été construit en 2014, spécifiquement pour les personnes entrées illégalement sur le territoire. Les conditions de détention étaient rudes, témoigne Testas Giasgodom, l'un des détenus rencontrés sur place au mois de février.
We live 10 people in one room.
Nous sommes 10 personnes par cellule avec un seul toilette à l'intérieur. Le mois dernier, la Cour suprême a ordonné qu'on ne soit que 6 par cellule. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas été appliqué. Vous ne pouvez pas faire entrer beaucoup d'affaires, même des livres. Vous ne pouvez en prendre que 2 ou 3. Et la nourriture n'est pas bien cuisinée. On a du riz tous les jours de la semaine.
La prison de Holot a été fermée le 14 mars dernier. En 4 ans de fonctionnement, 3360 personnes y ont été incarcérées, une petite partie seulement de ceux que le gouvernement qualifie d'infiltrés. Et la Cour suprême ayant limité la période d'incarcération à 1 an, beaucoup penseront ressortis libres, mais désormais le gouvernement envisage de rouvrir cette prison. Testas Giasgodom a passé 8 mois à Holot. Il en a finalement été libéré au moment de sa fermeture. Il s'est installé depuis à Bat Yam, une banlieue de Tel Aviv.
3 jours avant d'être libéré de Holot, ils ont commencé à appeler les gens pour leur dire qu'ils allaient être libérés. J'ai compris que ce serait mon cas aussi parce qu'ils disaient que Holot serait fermé le 14 mars. Le 8 mars au matin, ils m'ont appelé et m'ont dit que je serais libéré. J'ai reçu un visa de 2 mois avec interdiction de vivre et de travailler dans cette ville.
Ces 7 villes sont celles où le gouvernement estime que la concentration de migrants africains est trop forte. Parmi elles, Eilat, sur les rives de la mer Rouge. C'est là que Testas Giasgodom vivait et travaillait avant d'être incarcéré. Il ne peut désormais y habiter et doit donc repartir à zéro.
It was very difficult to find an apartment. Somebody who knows a friend of mine.
C'était très difficile de trouver un appartement. Un ami d'amis m'a dit que je pouvais partager avec une famille. J'ai accepté. J'essaie de trouver un autre appartement pour vivre avec un ami, mais c'est très difficile. Même quand on trouve, les propriétaires ne veulent pas nous louer car nous sommes des réfugiés, que nous n'avons pas de statut légal, seulement des visas de 2 mois.
Depuis sa sortie de prison, Testas Giasgodom est bénévole dans une organisation communautaire. Il essaye d'aider ses compatriotes à faire valoir leurs droits. Mais face à la volonté répétée du gouvernement d'expulser ces migrants africains, son avenir, comme celui des près de 40 000 Érythréens et Soudanais présents en Israël, reste incertain.
Depuis plus de 6 ans, je ne sais pas quelle sera ma destination. Et je suis vraiment perdu quand je vois que le gouvernement annonce un accord et l'annule en moins de 24 heures. Donc, comme toujours, mon futur est incertain. C'est une situation stressante. Mais je n'abandonne pas, je ne perds pas espoir. Je vais essayer de faire de mon mieux.
Israël, le difficile parcours des demandeurs d'asile africains. Un grand reportage de Guilhem Delteil, aidé de Marc Israël Selem et Juliette Swaye. Réalisation Pierre Chaffanjon.